On est très heureux de se retrouver pour partager encore le beau message de l'Évangile. C'est toujours une joie d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Alors merci à notre frère et merci à vous pour votre accueil. Que Dieu nous bénisse encore. Et ces réunions ont pour but vraiment de nous mettre en contact avec le Seigneur. Et que, au travers de ces quelques instants, notre cœur s'ouvre et que la foi puisse faire son œuvre dans notre cœur. Alléluia. Donc, je vous propose ce soir, une lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, et du verset 19 à 21 pour commencer. Jean, chapitre 20, verset 19 à 21. Voilà ce qu'il est écrit. « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Amen. Et puis on va lire du verset 24 à 29 du même chapitre, verset 24 à 29. « Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Gloire au Seigneur. Père éternel, c'est dans le beau nom de Jésus que nous voulons t'apporter ces instants et nous réclamons l'assistance de ton esprit parce que c'est lui qui convainc de péché, c'est lui qui éclaire nos cœurs, c'est lui, Seigneur, qui est capable de transformer nos vies, nos cœurs. Seigneur, nous voulons t'apporter celles et ceux qui peut-être dans ce lieu ne te connaissent pas encore. Ils ont peut-être entendu parler de toi, te connaissent peut-être d'une manière religieuse, intellectuelle, mais n'ont pas fait une véritable rencontre avec toi. Et nous te demandons, Seigneur, de te révéler puissamment à leur cœur ce soir au travers de la prédication de l'Évangile. Nous voulons vraiment t'apporter, Seigneur, ces instants et aide-moi pour annoncer ta parole ce soir encore. Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes ici dans le contexte, nous sommes quelques jours après la crucifixion de Jésus et les disciples, vous avez vu comme moi, ils sont enfermés à double tour dans une maison parce qu'ils ont peur de subir le même sort qu'a subi Jésus. Et ils sont dans la crainte, ils sont dans l'inquiétude, il y a des angoisses, il y a encore le traumatisme de cette fameuse nuit où le Seigneur fut saisi et tout ce qui s'est passé autour. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de difficile à vivre. Je pense qu'ils étaient encore bien fragiles. Et alors qu'ils sont là, inquiets, voilà que Jésus apparaît au milieu d'eux, il vient au milieu d'eux, et il leur dit cette parole, que la paix soit avec vous. Première chose, il est calme. Que la paix soit avec vous. Et pour bien leur montrer que c'est bien lui, voilà, en cas que, eh bien, il leur montre ses mains percées et il leur montre aussi son côté percé. Et quand les disciples, eh bien, percutent, quand ils s'aperçoivent que c'est vraiment Jésus qui est là, vivant, ressuscité, ils sont remplis d'une joie immense. Une joie formidable les remplit. Et Jésus, eh bien, s'entretient avec eux, il va leur parler de leur future mission. Il y a là un dialogue, et c'est vrai que ça devait être extraordinaire, ça devait être merveilleux. Mais au bout d'un moment, Jésus disparaît devant eux. C'est étonnant, hein, tout ça. Vous le croyez ? Parce que si vous ne croyez pas ça, ça va être compliqué pour croire le reste. Et voilà que quelques minutes après, c'est Thomas qui arrive dans la maison. Alors certainement qu'il a remarqué que l'atmosphère, le climat n'était pas le même que quand il est sorti de la maison. Parce que quand il est sorti de la maison, ben, il était comme les autres. Il y avait de la tristesse, il y avait de l'inquiétude, il y avait des angoisses. Et certainement que ça devait se lire sur leur visage. Et là, arrive Thomas et il voit des visages souriants, heureux, paisibles, comment vous dire, le jour et la nuit. Et là, tout d'un coup, eh bien, tous ses collègues, tous ses amis lui tombent dessus. Et ils vont lui dire, écoute, tu as loupé la réunion, il y avait Jésus. Jésus était au milieu de nous, il était là parmi nous, nous l'avons vu de nos propres yeux, il nous a montré même ses plaies, et il nous a parlé, il nous a rassurés, et il nous a parlé de notre mission future, etc. Et c'était merveilleux, c'était formidable, c'était un moment béni que nous avons passé avec le Maître. Et il s'attendait à avoir une réaction bénie, heureuse, de la part de Thomas. Et malheureusement, c'est tout le contraire qui s'est produit. C'est difficile quand vous avez 11 personnes qui sont convaincues de quelque chose et vous en avez un qui, lui, est complètement insensible, indifférent, froid, incrédule. Pourtant, on pourrait dire que le nombre pourrait faire en sorte que, mais malheureusement, rien. Thomas, il ne bouge pas. Il se braque. J'ai envie de dire même, il s'endurcit. Il va même jusqu'à dire à ses collègues, qui eux ont vu les plaies de Jésus, il va leur dire, tant que je ne verrai pas la marque de ses clous dans ses mains, tant que je ne verrai pas son côté percé, je ne croirai pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je resterai droit dans mes bottes. Alors, c'est compliqué, hein. L'incrédulité, c'est quelque chose de compliqué. Hein? Thomas, il avait du mal à croire. Le témoignage, pourtant, de ses propres amis. C'était quand même ses amis. Hein, c'était les amis de Thomas, quoi. Il aurait pu avoir confiance en eux. Mais non. Même Pierre, qui pourtant est un homme quand même imposant, j'ai envie de dire, n'a pas réussi à le convaincre. Vous savez, mes amis, combien de gens ressemblent un peu à Thomas, ici ? Ils veulent voir, ils veulent des preuves de l'existence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, etc., etc. Et moi, j'ai envie de vous dire ce soir, mais quelle preuve pourrions-nous vous donner pour vous démontrer que Jésus est vivant, qu'il est le sauveur de nos âmes, qu'il est le Seigneur de nos vies. Quelle preuve on pourrait vous donner ce soir ? Alors, même les Écritures, parce que Thomas, il connaissait quand même les Écritures. Jésus avait souvent parlé de lui au travers des Écritures, des prophéties. Mais même ça, ça ne l'a pas convaincu. Quelle preuve on pourrait vous donner ce soir que Jésus est réellement ressuscité, qu'il est vivant et qu'il peut intervenir et agir dans votre cœur et sauver vos âmes? Alors, une preuve que nous pourrions vous donner ce soir est celle de ce que Jésus a fait pour nos vies. De ce que Jésus a fait pour nos vies. Et on a entendu un témoignage ce soir, hier on a entendu un témoignage, et on a des témoignages merveilleux d'hommes et de femmes, eh bien, qui étaient esclaves du péché, désespérés, pour certains tenus par l'alcool, pour d'autres par la drogue, par une sexualité désordonnée, pour d'autres encore, ils étaient tenus par la cupidité, par la violence, par les puissances occultes. Et c'est vrai que, malgré parfois que certains puissent entendre des témoignages de conversion, combien même, ça arrive que certains puissent voir que nous avons changé, que nous ne sommes plus les mêmes parce que Jésus est venu dans notre vie, ben ils ne croient pas. C'est terrible ça. Hein? Surtout dans ceux qui nous connaissent. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, à la rigueur, mais quelqu'un qui te connaît et qui dit « mais c'était pas le fou furieux, c'était pas... l'impudique là, le coureur de jupons, et lui là-bas, c'était pas la droguée, mais c'est bizarre, elle lit sa Bible, c'est bizarre, il n'est plus le même, c'est drôle. » Eh bien, combien même, parfois, il y a cette démonstration de puissance, parce que c'est une démonstration de puissance, et il ne faut pas sous-estimer ce que Christ a fait pour nous, mes amis et mes frères et sœurs. Hein? Vous qui avez vu la grâce de Dieu s'accomplir dans votre vie, ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas ce que Christ a fait pour vous, parce que ce qu'il a fait pour vous, c'est miraculeux, c'est prodigieux. Alléluia. Et comme nous le disons et comme la Bible dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Eh bien, il y a encore des gens qui ont du mal à croire, à saisir la grâce de Dieu. Pourtant, je bénis le jour où la grâce de Dieu est venue dans ma vie. Je bénis ce jour. Parce que ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est drôle parce que les réactions n'ont pas été les mêmes. Je me rappelle, ma sœur, pour ne pas dire mes sœurs, mais une en particulier, elle a été convaincue de péché le jour où j'ai été touché par la grâce de Dieu. C'est drôle, hein ? Comme quoi que le Seigneur, il peut utiliser... Elle a été convaincue. Elle m'a dit, c'est pas possible que c'est pas lui. Il n'a pas dit un gros mot aujourd'hui. Même dans des choses comme ça, ça peut se voir. Vous voyez ? C'est pas possible. Comment il est devenu ? Il n'y a que Dieu qui peut faire une œuvre comme ça. Et elle a été convaincue de péché. Par contre, j'ai un grand frère qui, lui, il est resté de marbre. C'est drôle, hein ? Parce que une a ouvert son cœur, la foi est venue, et l'autre a fermé son cœur, et l'incrédulité règne toujours dans ce cœur. Seigneur, ce soir, viens et délivre nos cœurs de toute incrédulité. C'est l'apôtre Pierre qui pouvait dire à celles et ceux qui avaient placé leur foi en Jésus et qui avaient rencontré le Maître, qui avaient fait une expérience merveilleuse avec le Maître, il dira dans 1 Pierre chapitre 1er, chapitre 1er, versets 8 et 9, « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Et vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant, et la joie elle est là, hein. Il y a toujours la joie. Hein. La foi, elle produit la joie du salut. Amen. C'est un témoignage, la joie. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. C'est beau la parole, hein. Mais voilà, Thomas, lui, croit pas. Il croit pas. Il a beau entendre le témoignage de ses collègues, il a beau voir l'expression qu'il y a sur les visages de ses collègues, qu'il y a un changement qui s'est opéré, eh bien, il ne croit pas. Mais heureusement que le Seigneur aime les incrédules, parce qu'il est venu pour eux. Enfin, finalement, il est venu pour nous. Et 8 jours après, eh bien, Jésus se montre à nouveau à ses disciples. Et là, cette fois-ci, Thomas est à la réunion. Il est là. Et Jésus l'appelle. C'est drôle parce que Jésus a disparu, mais il était toujours là. Et Jésus est là. Toi, tu dis non, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est pas possible qu'il soit là. Mais s'il est là, il connaît chaque cœur. Il connaît exactement ce que tu ressens, ce que tu penses. Il connaît tout, le Seigneur. Et là, il va lui dire quelque chose de particulier pour vous dire qu'il était là. Il va lui dire, Thomas, approche ici ta main et regarde mes plaies. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et devant le Sauveur ressuscité, devant les plaies qui sont là, parce que lui, il se souvient, Thomas, des paroles qu'il avait dit à ses collègues, eh bien, il s'écroule, il s'humilie, et il va faire cette confession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. » Ah, c'est majestueux, c'est glorieux. Et Jésus va lui dire, « Parce que tu as vu ?» Parce que tu as vu, tu as cru. Mais il va dire maintenant, et ça s'adresse à nous là, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Je fais partie de ces gens-là, de cette catégorie-là. Je n'ai jamais vu le Seigneur, mais je crois en lui. Et parce que je crois en lui, il s'est révélé à mon cœur d'une manière toute particulière. Alors moi j'ai envie de dire peut-être à quelqu'un ce soir, ne sois pas incrédule, mais crois. Crois, regarde autour de toi. Il y a là, dans cette assistance, des hommes, des femmes qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus. Alléluia. Et nous savons qui nous croyons. Et nous avons cette assurance qu'il est notre Seigneur. Alléluia. Ce soir, crois que Jésus t'aime. Malgré ta rébellion, malgré ton incrédulité, malgré les offenses que tu as pu faire, il t'aime. Crois qu'il t'aime et crois qu'il s'est offert à la croix pour expier tes péchés. Crois qu'il a tout accompli pour ton salut et crois qu'il est ressuscité pour te justifier auprès de son Père céleste. La foi fait toute la différence. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors si tu veux recevoir eh bien, la certitude que Jésus est le sauveur de ton âme, parce que tu peux le croire intellectuellement, mais il te le faut le croire avec ton cœur, eh bien si tu veux recevoir cette certitude, crois. Amen. Lorsque nous croyons de tout notre cœur, il y a quelque chose qui se passe. Tout à l'heure, je disais que 11 personnes, comme les apôtres, n'ont pas pu convaincre... Enfin, 10, pardon, 10. Je mets 11, mais ils étaient 10, puisque c'est Thomas le 11e. 10 apôtres n'ont pas pu convaincre Thomas. Pourtant, Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait quand même Jacques. Quand même, c'est des hommes formidables. Hein, et ils n'ont pas pu convaincre un homme. Ce soir, je ne peux pas vous convaincre. Désolé. Et me dire, eh ben, dis donc, pourquoi on est venu alors ? Et je ne peux pas vous convaincre. Celui qui te convainc, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, comment il peut te convaincre ? Plutôt, si tu as foi en Jésus, le Saint-Esprit te convaincra. Il te convaincra que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est ton Rédempteur, qu'il est ton Seigneur. Alléluia ! Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Amen. Il y a des gens qui n'osent pas parler du Saint-Esprit dans des réunions d'évangélisation. Ça peut-être effrayer certaines personnes, mais nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit, car c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui fait le travail, c'est pas le pasteur qui fait le travail, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, que ton esprit souffle ce soir dans ce lieu. Alléluia. Et qu'il convainc, Seigneur, de péché, de justice et de jugement. Seigneur, nous avons besoin que ton esprit éclaire les cœurs. Oh, merci Seigneur. Lorsque nous croyons, le Saint-Esprit vient à notre secours. Rappelez de cet homme qui avait dit à Jésus, quand Jésus dit « je le veux, sois béni, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité !» Il avait dit, hein ? Et le Seigneur est venu de suite à son secours. Alléluia ! Parce que Dieu vient toujours au secours de ceux qui le craignent, de ceux qui l'appellent, de ceux qui l'invoquent, et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. C'est évident que si tu penses que tu n'as pas besoin de l'aide de Dieu, ça va être compliqué. Dis ce soir au Seigneur, convainc-moi de péché. J'ai besoin de faire une rencontre avec toi. J'ai besoin de te rencontrer, Seigneur. Lorsque nous recevons la révélation du Fils de Dieu, eh bien, ça change tout. Vous savez, la foi, elle te permet de proclamer la vérité. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, versets 9 à 13, j'aime bien donner des références bibliques, hein, parce que c'est bien de s'appuyer sur la parole de Dieu. Romains 10, versets 9 à 13, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alléluia. Y a-t-il des sauvés au milieu de nous ? Y a-t-il des rachetés ? Y a-t-il des gens qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus ? Proclamez-le, dites-le. Amen. Témoignez de ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est notre mission. C'est notre mission. Là où vous êtes, dites ce que le Seigneur a fait pour vous. Alléluia. Alors, si tu crois en Jésus, mon ami, et si tu reconnais que Jésus s'est incarné en un homme, eh bien, tu recevras le salut pour ton âme, le don de la vie éternelle, et c'est le Saint-Esprit qui opérera cela dans ton cœur. Et il y aura une marque sur ta vie, c'est la joie du salut. J'en reviens, hein, parce qu'ils étaient heureux. Quand ils ont vu Jésus ressuscité, leur Sauveur, leur Messie, ils étaient heureux. On est heureux dans la présence de Dieu. On n'est pas bien dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, chers amis, on est... Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre ? La présence de Dieu, c'est la source du bonheur. Seigneur, ce soir, viens, libère les cœurs de toute incrédulité. Vous savez, mes frères et sœurs et chers amis, pour faire court par rapport à mon témoignage, c'est vrai que on est tous des Thomas, hein. Au départ, on est tous un peu des Thomas. Hein ? C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Thomas. Et quand je vois mon fils, je dis « Ah, ça me rappelle quelque chose. » Mais c'est vrai que Je me rappellerai ce jour en particulier où le Seigneur s'est révélé à mon cœur. Et je le dis souvent parce que ça étonne certaines personnes. Je dis, vous savez où c'est que le Seigneur s'est révélé à mon cœur, à moi ? Certains le savent, hein. Il s'est révélé dans la cuisine. Et il me dit, eh bien dis donc, dans une cuisine ? Ben oui. Alors je vous explique, hein. Quelques jours avant, alors que j'étais mais vraiment pas chaud pour aller dans un centre de vacances, c'était la Pentecôte, c'était à Gap, centre de vacances. Et moi, mon père m'a dit, écoute, à la Pentecôte, il y a un tournoi de foot, tu veux pas y aller avec des jeunes de l'église ? Ils ont besoin de joueurs de foot. Bon, je crois qu'il a dit ça pour me... Et ce jour, alors que j'étais toujours en train de dire non, 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 je ne veux rien entendre. Ben ce jour-là, j'ai dit, ben oui, j'y vais. Et j'ai pris un collègue avec moi. Et on est allés tous les deux, et on est allés là-haut. On était avec les gens d'Aix-en-Provence, des frères et sœurs, des jeunes. Puis on a fait le tournoi de foot, et en même temps, on allait aux réunions. Occasion d'entendre l'Évangile. Et ça m'avait plu. J'avais bien aimé. Et quelques jours avant, parce que c'est ça qui m'a motivé à y aller, quelques jours avant, je fais un rêve. Attention, hein, accrochez-vous. Je ne vais pas amplifier ce que je vais dire. C'est exactement le rêve que j'ai fait et qui m'a poussé justement à aller à ce camp et à faire une démarche de foi finalement. J'étais inconverti, je ne voulais rien entendre de Jésus. Je fais ce rêve dans la nuit. Je marche, j'étais seul et c'était la nuit. Je me vois en train de marcher la nuit. Et je me rappelle, je marchais mais je ne savais où aller. Je me disais, mais où je vais ? Où je vais ? Mais je marchais mais je ne savais pas où j'allais. C'est drôle, hein ? Et là, tout d'un coup, j'entends des bruits d'ailes. Je ne suis pas fou, hein. J'entends des bruits d'ailes. Et je dis, mais c'est quoi ce bruit ? C'est bizarre. Et j'étais là, dans la nuit, en train de regarder, et je disais, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que c'est, ce bruit ? Et là, je lève mes yeux, et je vois quelque chose qui est là, au-dessus de moi, grand, fort, un ange. Mais un ange avec un regard de haine. Et je reste tétanisé comme ça dans le rêve, je me rappellerai toujours, je regarde comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je n'osais même pas parler, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et je me dis, mais c'est quoi ? Et derrière, je vois des ténèbres. Et je pourrais vous le décrire, parce que je l'ai vu tel que... un peu représenté comme un chérubin dans l'Apocalypse. Et je reste comme ça, et là j'entends une voix qui me dit, tu vois lui, c'est le prince de ce monde. Et quand il me dit ça, je vois ses yeux qui sont remplis de haine, comme si que... il y avait comme une sorte de combat, quoi. Dire, tu es à moi, quoi. Et cette voix qui me dit, c'est le prince de ce monde, tu dois maintenant choisir entre lui et moi. Mais j'ai entendu la voix, mais je n'ai pas vu celui qui me parlait. Et je me réveille comme ça. Tu dois choisir. Et je savais là que c'était le mal. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais ? Parce que j'avais la drogue, la violence et tellement d'autres choses, je ne veux pas m'étendre. Mais c'était vraiment... voilà. Et c'est pour ça que mon père, quelques jours après, me dit, il y a à la Pentecôte, il y a un tournoi de foot, est-ce que tu ne veux pas aller ? Oui, je veux y aller. Et je n'osais même pas le dire, ce rêve. Je n'osais même pas le dire, on va me prendre pour un fou. Heureusement qu'il y a des chrétiens qui connaissent un peu la Bible et qui savent que choisis la vie et non la mort. Et là, j'étais là le pasteur prêchait. Alors, il y a plein de choses que je n'ai pas compris, mais il a dit à un moment donné, « Seigneur connaît ton cœur, il sait que tu es pécheur, et il sait qu'il y a un combat dans ta vie, mais tu dois maintenant choisir entre la vie et la mort, entre le diable et Dieu, entre Jésus et le mal. » Et moi, j'étais comme ça, et je savais que c'était pour moi. Alors, il y avait plein de jeunes, hein, certainement que c'était pour eux aussi, hein. Mais là, c'était pour moi. J'ai dit, oh là là, y a-t-il quelqu'un qui voudrait de Jésus ce soir ? Levez-vous. Il faut se lever, hein. Je me suis levé. Et je me lève. Et il y avait mon pote à côté, qui alors lui aussi était à l'ouest, mais je le vois, il se lève aussi. Et je ne pensais pas qu'il allait se lever. Mais il s'est levé. Alors, ce pote en question... Il est devenu mon beau-frère plus tard. Et maintenant, il sert le Seigneur à Aix-en-Provence, dans l'église. Bon, pour vous dire qu'il y a eu une œuvre de Dieu. Hein. Et ce pasteur, ce cher pasteur, nous a simplement dit, écoutez, quand vous rentrez chez vous, demandez pardon au Seigneur pour vos péchés et ouvrez votre cœur et Dieu vous bénira, Dieu vous sauvera, Dieu se révélera à votre cœur. Alors moi, je rentre à la maison, je dis rien à mes parents. Parce que j'avais un problème avec... j'arrivais pas à m'exprimer, quoi. J'avais honte. Enfin, c'était difficile, quoi. Donc je dis rien, mais bon. Mais ce jour-là, il y avait personne, je me suis mis à genoux, j'ai dit « Seigneur, pardon pour mes péchés ». Et là, je m'attendais à ce que, tout d'un coup, il y ait quelque chose qui se passe. Parce que j'avais entendu des témoignages dans ce camp. De transformation, de changement, de vie. Et là, je m'attendais vraiment à ce qu'il se passe quelque chose. Et rien. Et là, tout d'un coup, j'ai eu un doute. Parlons de doute. Je me suis dit, est-ce qu'ils ne vont pas raconter des garofs ? Mais pourtant, tu as fait ce rêve. Tu ne peux pas l'oublier, ce rêve. Et il y a quelque chose qui me dit, persévère. Ce n'est pas une voix, hein, je n'ai pas entendu de voix, mais il y a quelque chose qui me dit... Persévère. Ne lâche pas. Donc, toute la semaine, j'ai persévéré. Je lisais ma Bible. Des choses que je ne comprenais pas, mais je lisais quand même la Bible. J'ai dit, Seigneur, bon, je lis quand même ta parole, la parole. Je lisais. Je demandais pardon encore pour mes péchés. J'ai dit, Seigneur, j'ai tellement fait de bêtises. Je ne sais pas par où commencer, tellement il y en a. Et arrive ce fameux samedi où je rentre dans la cuisine. Ah, ça y est, nous sommes dans la cuisine. Je rentre dans la cuisine, j'ouvre le frigo, je prends quelque chose certainement, un saucisson, j'étais là et tout d'un coup je lève les yeux vers, il y avait le mur, je lève les yeux et je vois un verset. Mes parents, ils avaient affiché un verset, ça faisait des années qu'il était là, je n'avais jamais capté. Il y avait un verset là. Et mes yeux se lèvent sur ce verset. Il y avait marqué sur ce verset, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et je regarde et je dis, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais ça rentre pas. Il y a quelque chose, j'ai pas entendu la voix, mais il y a quelque chose qui me dit, « Relis. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Relis. « Crois au Seigneur Jésus », je l'ai lu au moins 10 fois. Et à un moment donné, « Crois au Seigneur Jésus », je m'arrête. Je dis, « Mais Seigneur, je crois en toi, puisque je t'ai demandé pardon. Si je t'ai demandé pardon, c'est bien que je crois que tu es vivant, c'est bien que je crois que tu es ressuscité. Alors si je crois que tu es vivant, et si je crois que tu es ressuscité, alors je suis sauvé. Et au moment où je dis, « Je suis sauvé », là, il se passe quelque chose que je ne peux pas vous expliquer d'une manière... Mais la grâce de Dieu, elle rentre dans mon cœur. C'est comme une douche qui vient, qui m'envahit, qui me remplit. Et tout d'un coup, une joie. La joie du salut. Et là, je sors de la cuisine et je bondissais. Pardon, hein. Je suis pas fou. Mais je bondissais. Je suis sauvé. Je suis calme là. Je suis sauvé. Mais vous, on se rend pas compte qu'est-ce que c'est que la joie du salut, de recevoir la grâce de Dieu. On se rend pas compte tellement que c'est merveilleux, tellement que c'est précieux, tellement que c'est, ça dépasse tout. Et là, je dis, je suis sauvé. Jésus m'a sauvé. Je sais que je suis sauvé. Il m'a sauvé. Je descends dans le quartier. Je me rappelle encore. Je descends. Je vois mes potes. Je dis, je suis sauvé. Jésus m'a sauvé. Et malheureusement, bon, ils m'ont pris, je pense, pour quelqu'un qui était un peu fou. Du reste, ils m'ont dit, t'as pas fumé? J'ai dit, non, j'ai pas fumé. Je vous dis que Jésus s'est révélé à mon cœur. Et ce que les apôtres voulaient pour Thomas, vous voyez, Jésus est vivant, Jésus m'a sauvé, il s'est révélé à mon cœur. Ben, j'étais confronté à ce que les apôtres étaient confrontés avec Thomas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réaction, quoi. Je dis, mais ça leur fait rien. Et dans la semaine, dans les semaines qui ont suivi, j'avais ma Bible, j'allais à l'église. Amen. Et je me rappelle la première fois que je suis rentré le dimanche à l'église. Je rentre dans l'église, je pleurais, mais de joie. Le cœur était en fête. Je me suis assis, premier cantique, je pleurais tellement que j'étais heureux. Et là, j'ai dit, je suis là, à ma place, avec mes frères et sœurs, ensemble pour louer, adorer le roi des rois. Bon, j'ai mis quelque temps avant de louer le Seigneur, parce que j'avais honte, hein, d'exprimer ma louange. Il a fallu qu'on prie pour moi, pour qu'on m'encourage aussi. Mais à un moment donné, j'ai pris la victoire, et alléluia, maintenant, il faut m'arrêter. Mais oui, parce que c'est des petites choses comme ça, mais ça paraît pas, mais voilà. Et ça a été un changement radical. Et je bénis Dieu pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Et gloire à Dieu pour la suite des choses. Parce que ce qui est merveilleux, c'est qu'après, le Seigneur m'a appelé au ministère. Alors oui, il y avait encore des choses qu'il fallait régler, parce que voilà, mais Dieu est un Dieu plein de patience. Alléluia. Et finalement, il faut se laisser modeler par la grâce du Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit aussi, ça a été merveilleux, dans ma chambre. Le salut dans la cuisine, le baptême du Saint-Esprit dans la chambre. C'est incroyable, comme le Seigneur est grand. Et le ministère, l'appel au ministère, ça s'est fait dans un anniversaire, avec des chrétiens. J'avais reçu cela dans mon cœur, mais je disais, non, moi je ne suis pas assez intelligent pour devenir pasteur. Parce que moi, j'ai pas le bac. Moi, j'ai arrêté l'école très tôt. C'est pas pour moi. Il faut bien parler quand on est pasteur. Moi, je sais pas bien parler. Et puis là, alors que on avait prié, je me rappelle, j'étais avec deux frères. On était à Cavaillon. On était dans une tente. On priait et je disais Seigneur, si je suis appelé. Je savais que j'étais appelé au ministère, mais j'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles, hein, mais je ne pense pas, que demain au culte à Cavaillon, il y ait une parole de Dieu. Et sinon, Seigneur, si avant telle heure le soir, je n'ai pas reçu de parole, ça veut dire que je n'ai rien reçu. Et il n'y a pas de problème, Seigneur, je ne serai pas fâché. Pendant la réunion, il ne se passe rien. Un don spirituel, mais c'était rien à voir avec l'appel au ministère. Toute la réunion, alors je m'attendais à la prédication, j'ai dit, ah, le frère, il va avoir une prédication inspirée là. Rien, hors sujet. Du début à la fin. Rien. Alors je me suis dit, certainement que je me suis fait peut-être... ouais, mais il ne faut pas se décourager. J'avais les frères à côté de moi, mais il ne faut pas se décourager, tu sais. Ouais, bon. Mais l'heure n'était pas encore... parce qu'on avait bien précisé une heure. Je vais à l'anniversaire. On sort de l'anniversaire, c'était 10h du soir. 10h du soir, on sort de l'anniversaire. On prend la voiture pour retourner à la maison. Et là, appel de phare derrière. Appel de phare. On était en train de tous repartir. Et appel de phare. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? J'ai peut-être laissé le coffre ouvert ou il y a un truc qui ne va pas. Je me gare. Je vois la voiture derrière qui se met comme ça. Et je vois un frère qui vient vers moi, que je ne connaissais pas. Et il se vient vers moi. J'étais en train de conduire. Donc il vient vers moi côté conducteur. J'ouvre la fenêtre. Il me dit, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ce que tu penses avoir reçu, tu l'as reçu de la part de Dieu. Va voir ton pasteur qui l'impose les mains sur toi parce que tu as reçu de servir le Seigneur. Et le gars, il dit, allez, au revoir. Je vous promets, ça s'est passé comme ça. En 45 secondes, même pas, peut-être même pas. Le temps de dire ça, il est reparti dans sa voiture, il est parti, et moi, je suis comme ça. Et les autres derrière, hé, on avait dit l'heure, regarde. Dieu est précis, hein. Il fallait que ça se passe comme ça pour moi. C'est des petites expériences que nous pouvons faire. Et là, nous voyons la main du Seigneur. Mais gloire à Dieu, ça m'a aidé. Parce qu'honnêtement, je ne me sentais pas la force. Et encore aujourd'hui. Mais Dieu nous aide. Ça va toujours? Vous n'êtes pas lassé de moi? Non, ça va. Alors je termine. Je peux terminer? Je ne suis pas trop long, ça va? J'ai presque fini. Encore 2 heures, j'ai presque fini. Jésus va dire à 3 reprises, vous avez remarqué dans le texte, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Vous savez, mes amis, la joie, c'est merveilleux. La joie du salut, d'être sauvé. Mais la paix de Dieu, c'est quelque chose aussi que Dieu donne. Amen. La paix et la joie, ça va ensemble avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est le prince de la paix. Et le prince de la paix, il peut dire à quelqu'un que la paix soit avec toi. Et Jésus a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Et moi, j'ai envie de dire peut-être à quelqu'un ce soir, non seulement le Seigneur, il veut remplir ton cœur de joie, mais il veut te donner sa paix. Amen. Et la paix que Dieu nous donne, elle a le pouvoir de chasser toute angoisse, toute peur, toute frayeur, toute inquiétude. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est divine. Elle est surnaturelle. Elle surpasse toute intelligence. Il n'y a que Dieu qui peut apaiser les cœurs. Ils étaient tous angoissés dans la chambre, hein, dans la maison. Ils étaient tous angoissés. Et là, apaisés, tranquillisés. C'est pas beau la paix de Dieu? Je termine avec ce verset, Romains 5, versets 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Alors, mon ami, veux-tu connaître la joie du salut? Veux-tu connaître la paix de Dieu? Alléluia! Veux-tu vivre, eh bien, quelque chose de merveilleux avec Jésus? Alléluia! Parce que quand Jésus il vient dans un cœur, il vient pas les mains vides, hein? Il nous remplit de sa grâce. Alléluia! Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. C'est pas une religion lourde, mais c'est sa présence en nous. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et à lui soit la gloire. Alors je m'arrête là. Et on va prier. On va demander au Seigneur sa grâce. Et vous voyez, ces moments que nous partageons ensemble, ça sert à quoi? Ben, ça sert à ce que vous puissiez avoir soif de Dieu. L'expérience que j'ai faite, que mon épouse a faite et que d'autres ont fait ici, que vous puissiez aussi faire cette même expérience. Alléluia! Parce que croyez-moi que quand Jésus vient dans un cœur, vous êtes marqué pour la vie, pour l'éternité, j'ai envie de dire même. Amen. Alors ce soir, peut-être il y a quelqu'un dans ce lieu qui est là et qui se dit, est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que Jésus peut me sauver? Est-ce que Jésus peut me rencontrer? Est-ce que Jésus m'aime? Est-ce que Jésus, eh bien, il a un projet pour ma vie? Mais moi, j'ai envie de dire, mais oui, oui, à 300%. Jésus a un projet pour ta vie. Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut te rencontrer. Jésus veut te donner cette joie du salut, cette paix du cœur, cette assurance de la vie éternelle. Alléluia. Que c'est bon, que c'est beau la vie éternelle. Oh mon ami, si tu la connais pas, cette paix de Dieu, cette grâce de Dieu, il faut que tu la demandes à ton Seigneur. Alléluia. Crois en lui, crois en sa parole, crois qu'il veut te bénir, alléluia, qu'importe ton âge. Ma sœur, quand elle a été convaincue de péché ce jour-là, vous savez quel âge elle avait ? Elle avait 13 ans. 13 ans, et elle a été convaincue de péché. Et elle savait que Jésus était devenu le sauveur de son âme, alléluia. Alors le pasteur lui a dit, je ne peux pas te baptiser à 13 ans, mais dès que tu auras 15 ans, 16 ans, je te baptiserai. Il a fallu qu'elle attende. Elle n'en pouvait plus, la pauvre. Mais finalement, ça y est, c'est fait. Mais peut-être que tu as plus de 13 ou 14 ans. Ce soir, si tu n'es pas convaincu de péché, si tu n'es pas convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, si tu n'es pas convaincu que tu as besoin de Jésus, ça peut être grave pour ta vie, pour ton âme. Parce que tu as tous les éléments pour que tu puisses faire une rencontre avec Jésus ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait que l'on prie pour lui, justement, parce que tu sens qu'il y a un combat dans ton cœur? Le doute est là, l'incrédulité est là. Tu te poses des tas de questions. J'aimerais prier ce soir de tout mon cœur pour toi, afin que Dieu se révèle puissamment à ton âme. Alléluia. Alors, je fais un appel simple, et vous levez votre main si vous avez besoin de la grâce du Seigneur. Mais si quelqu'un ce soir a besoin, eh bien, du salut, de rencontrer Jésus, levez votre main discrètement, et on va prier pour que le Seigneur vous bénisse. N'ayez pas honte. Vous avez tout à gagner. Que Dieu te bénisse. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ah, la timidité aussi, ça peut aussi nous tenir. Hein. Ça peut retenir notre bras aussi, la timidité, la honte. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? N'aie crainte. Jésus est là. Il veut ton bien, il veut ton salut. Je fais encore un dernier appel. Il y a un combat. Je sais qu'il y a un combat dans ton cœur. Mais Jésus est vivant. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et combien même une âme, Seigneur, lève sa main. Seigneur, toi, tu connais son cœur. Et tu sais, Seigneur, ce qu'il y a dans le cœur de cet homme, de cette femme. Seigneur, je prie pour que dans ta grâce, ce que nous avons expérimenté par le moyen de la foi, Seigneur, il puisse aussi l'expérimenter. Seigneur, quand tu viens dans un cœur, tu le transformes, tu le changes, tu le remplis de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta présence. C'est un bouleversement, c'est un changement. Seigneur, nous voulons être ces témoins de ta puissance. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, répandre le doux parfum de Christ autour de nous. Alléluia. Oh Seigneur, tu es vivant. Peut-être y a-t-il aussi au milieu de nous des frères et sœurs qui ont besoin d'être renouvelés dans la grâce de Dieu. Peut-être as-tu besoin d'être renouvelé dans la joie du salut, dans la paix de Dieu, dans cet amour de Dieu, mon frère, ma sœur. Eh oui. Et oui, il y a tellement longtemps que tu as rencontré le Seigneur, mais peut-être que ce feu s'est éteint dans ton cœur. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ben, Dieu veut renouveler, Dieu veut ranimer la flamme dans ta vie, dans ton cœur aussi. Alléluia. Et là aussi, y a-t-il des amis, des frères et sœurs qui ont besoin d'être renouvelés dans leur être intérieur? Ben, levez votre main et on va prier. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On a besoin d'être renouvelé, hein, dans cette vie de résurrection, dans cette grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Tu vois que l'incrédulité revient doucement dans mon cœur. Seigneur, je veux demeurer dans la foi au Fils de Dieu jusqu'à la fin. Pardonne-moi, Seigneur, si ma foi, Seigneur, diminue. Seigneur, fais grâce. Touche mon cœur ce soir. Fais grâce, Seigneur, à ces vies ce soir. Fais grâce à ses frères et sœurs, qu'ils retrouvent la joie, la paix du cœur, qu'ils retrouvent, Seigneur, cet entrain, cette ferveur d'esprit, alléluia, pour te louer, t'adorer, te servir, Seigneur, pour faire ta volonté, pour témoigner de ta grandeur, de ta puissance, de ton amour. Tu renouvelles en nous, Seigneur, toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous puissions chanter ensemble un chant tandis qu'on reste dans la prière. Alléluia.